au foyer Grenelle. Bon, vous savez que cette soirée est organisée par Attaque Paris 15. Si vous voulez avoir des renseignements sur Attaque, ou même si vous êtes du 15e et vous souhaitez avoir des renseignements sur Attaque Paris 15, bon, n'hésitez pas à discuter avec nous après la conférence. À Attaque Paris 15, actuellement, l'une de nos principales activités, c'est notre forte implication dans le collectif pour un audit citoyen de la dette du 15e. Vous trouverez d'ailleurs différents documents sur la table à droite sur ce sujet. Et d'autre part, nous organisons régulièrement des conférences et des projections au débat. C'est la dernière de la saison. Nous allons donc parler du sommet de Rio qui a lieu dans quelques jours. À ce propos, Attaque travaille beaucoup sur le sujet et vous trouverez aussi sur la table d'une part un 4 pages que vous pouvez prendre et il y a quelques exemplaires d'un livre qui vient de paraître que vous pouvez acheter. Et ce soir, nous recevons Gilles Lemaire, qui est membre du conseil d'administration d'Attaque, et même du bureau. Je te laisse te présenter, puis je te laisse.
Je crois que la présentation est faite. Donc, bonjour à tous. Rio plus 20, pourquoi Rio plus 20? Parce qu'en fait, il y a des sommets de la Terre maintenant, depuis un certain nombre d'années, ils ont lieu tous les 10 ans. Et donc Rio plus 20, parce que c'est le deuxième sommet de la Terre après celui qui avait eu lieu en 1992, déjà à Rio de Janeiro. Mais avant de parler de Rio plus 20, de celui-là, de Sommet de la Terre, je vais faire un retour arrière qui me semble nécessaire pour comprendre un peu l'évolution des différentes négociations internationales sur l'ensemble de ces questions écologiques, de quelle manière c'est arrivé dans l'actualité des agendas mondiaux, de quelle manière... ces préoccupations-là sont venues sur le devant de la scène, même si aujourd'hui en France, étant donné l'actualité électorale, il n'y a pas beaucoup de projecteurs sur Rio plus 20. C'est en rien comparable à ce qu'il y avait eu sur le COP15 qui s'était tenu à la conférence qui s'était tenue à Copenhague sur les questions climatiques, dont vous devez vous souvenir, où là il y avait eu beaucoup de débats, beaucoup d'informations pour un résultat, on y reviendra, qui n'est pas forcément à la hauteur tant des enjeux que de l'ensemble des débats et de l'énergie qui a été dépensée à ce moment-là. Le 19e et le 20e siècle, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la Terre mélangée à celle de l'humanité, parce que l'histoire de notre planète est beaucoup plus longue, représente une période de bouleversements importants. Les révolutions industrielles, les révolutions agricoles, industrielles dans l'agriculture, d'une certaine manière, provoquent un bouleversement des relations entre les sociétés humaines et les écosystèmes. Jamais dans l'histoire, jusque-là, l'humanité a eu autant d'impact sur les environnements. Déjà au 19e siècle, quelques scientifiques, quelques penseurs, quelques philosophes commencent à s'inquiéter de la question de ces bouleversements sur l'ensemble des écosystèmes. Déjà, des réflexions commencent à avoir lieu. Le terme d'écologie, par exemple, le mot écologie apparaît en 1866 par un philosophe, libre-penseur allemand, le premier utilise le terme. Mais bon, c'est restreint à des petits cercles. En fait, on est encore dans la suite sur le plan de l'histoire des idées et sur le plan de l'histoire des idées et des systèmes politiques, on est encore dans la suite des encyclopédistes qui avaient marqué leur confiance dans l'éducation, dans le développement scientifique, dans le développement industriel, et qui considéraient que ces trois éléments permettraient d'apporter le bonheur à l'humanité. Ce mode de pensée imprègne tant les politiques économistes classiques du début du capitalisme que le mouvement ouvrier. Hein, le mouvement ouvrier est aussi très marqué par cette idée-là que l'éducation, le progrès, va apporter le bonheur à l'humanité. On va accélérer un petit peu l'histoire, venir aux Trente Glorieuses, après la Deuxième Guerre mondiale. On se retrouve dans un monde où encore là, le développement économique, la croyance dans la croissance, la croyance dans le fait que les choses vont toujours s'améliorer est présente, bien que ça soit marqué aussi en même temps par l'affrontement entre deux blocs, hein, le bloc soviétique d'un côté, le bloc des pays capitalistes de l'autre, avec des conflits, ce qu'on appelle la guerre froide, avec des conflits extrêmement forts. C'est aussi un monde qui est marqué par la décolonisation et le fait que de nombreux pays du Sud réclament leur indépendance politique et l'acquièrent, des fois à la force des baïonnettes, hein, des fois de manière militaire. C'est marqué aussi par le fait que cette croissance économique extrêmement intensive qui a lieu à ce moment-là fait que la question du contrôle des matières premières, que ce soit les matières premières des combustibles fossiles ou des minerais, devient une question extrêmement importante. Et un des premiers organismes qui réfléchit de manière extrêmement précise, travailler à cette question d'épuisement des ressources ou à cette question de quelle manière les ressources évoluent, ben c'est le Pentagone. C'est les militaires américains. Parce qu'en fait, cette question-là est une question stratégique de leur point de vue. Donc, dans cette période des Trente Glorieuses, hein, qui, de 45 aux années à, disons, on a coutume de dire à 1973, les gouvernements veulent se poser la question déjà de contrôler, de rationaliser du point de vue de l'utilisation des ressources naturelles. Et un concept commence à être utilisé, c'est le concept de rendement soutenu maximal. Je vais vous dire les termes en français, hein. C'est un parti pris. Rendement soutenu maximal des prélèvements nécessaires sur la nature, parce qu'il y a déjà, à la fois compte tenu des capacités de renouvellement des écosystèmes, mais aussi de la capacité d'utiliser les ressources sans les épuiser. Mais c'est au nom aussi de cette politique, hein, donc cette politique est affichée, commence à être affichée, hein, dans des programmes gouvernementaux ou dans des rencontres internationales. Mais au nom de cette politique également, les puissances dominantes, tant d'ailleurs les Américains, les Européens que les Soviétiques, imposent aux pays du Sud en leur disant on a une politique de rendement soutenue, hein, qui nous permet de ne pas épuiser les ressources. Donc on va continuer à pêcher sur vos côtes. N'essayez pas de récupérer les ressources le long de vos côtes, où on va aussi, du point de vue des ressources agricoles, etc., vous demander de produire pour nos besoins. Et c'est toute la période de ce qu'on a appelé l'échange inégal, où on impose des prix très bas aux agricultures des pays du Sud, en échange de l'envoi de produits manufacturés vers ces pays-là. C'est une période aussi où va commencer à s'accumuler la dette et où la hausse des taux d'intérêt qui va, vers la fin, dans les années 70, se développer de manière importante, va entraîner une progression de la dette des pays du Sud extrêmement importante et en suivront des politiques qui leur imposent de transformer leurs agricultures, par exemple, pour en faire des agricultures exportatrices qui permettent de payer les intérêts de la dette ou d'exporter leurs ressources minières et autres pour également payer les intérêts de la dette. C'est aussi une période, les Trente Glorieuses, où, il y a eu une doctrine politique qui a été à ce moment-là établie par Truman, un président américain dès 1949, qui est celle de l'endiguement du communisme, parce qu'un des enjeux stratégiques de la période, c'était de savoir si les pays du Sud, les pays dits du tiers-monde, allaient basculer du côté du bloc soviétique ou non. Dans le cadre des mouvements de décolonisation, ils avaient passé des accords avec des pays du bloc soviétique pour se fournir en armement, pour pouvoir résister, par exemple, à la France. Par exemple, les États-Unis, de ce point de vue, ont joué un rôle beaucoup plus déjà, ils étaient déjà dans la phase suivante à se dire que la question de la colonisation n'était pas importante, mais que la question de la domination économique, elle était fondamentale. Et dans cette politique, qui est définie de Truman, l'endiguement du communisme passe par le développement des pays en retard grâce à l'assistance technique. Et c'est notamment les moments où la révolution verte est avancée, hein, dans ces années des Trente Glorieuses. La révolution verte qui dit on va vous permettre de mécaniser vos agricultures, de les développer, tant pour exporter d'ailleurs que pour vous apporter soi-disant plus de prospérité et pouvoir nourrir vos populations. Et déjà à ce moment-là, par exemple, René Dumont a démonté les conséquences de cette révolution verte, de ce qu'elle allait impliquer sur la déstructuration des sociétés en question, sur l'épuisement des sols, sur la mise en dépendance d'une paysannerie qui allait, en Afrique, par exemple, se concentrer dans les villes sans ressources, etc. On a également... Oui, j'ai une anecdote aussi. Dans ces rapports, le Pentagone, par exemple, s'inquiète aussi déjà du réchauffement climatique. Pour des raisons stratégiques assez intéressantes, c'est qu'il craint que l'océan Arctique se dégèle et que les navires soviétiques puissent passer par l'océan Arctique pour se rapprocher des États-Unis. Donc, ils étudient de manière très... Enfin, ils font des programmes de recherche sur le réchauffement climatique à ce moment-là parce qu'ils s'inquiètent de cette question. Déjà, dans cette période-là, cette fois, il y a une conscience écologique qui commence à s'éveiller et il y a des scientifiques, des philosophes, quelques politiques, peu, surtout des philosophes et des scientifiques, qui commencent à tirer les sonnettes d'alarme. C'est l'époque aussi, c'est l'époque où André Gorz, Castoriadis, René Dumont, je l'avais déjà dit, le concept de décroissance est mis en avant pour la première fois à cette époque par Georgescu Rogan, qui est un économiste roumain. Mais c'est aussi même Sico Manchol, qui est vice-président de la Commission européenne, qui, en 1972, donc c'est vraiment à la fin de cette période, mais écrit une lettre ouverte au président de la Commission européenne où il dit qu'il faut arrêter la croissance. C'est 1972, le vice-président de la Commission européenne. Donc c'est aussi une époque où Huber a commencé à populariser, enfin à faire connaître son analyse du pic de pétrolier de Huber, c'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, les capacités de production pétrolière allaient décliner. Alors il y avait des incertitudes sur la date à laquelle ça allait entrer où on allait atteindre ce pic de Huber. C'est fait hein, aujourd'hui. D'après tous les spécialistes des questions de l'industrie pétrolière et même d'après l'industrie pétrolière elle-même, c'est fait. Et puis il y a aussi le rapport du Club de Rome qui fait beaucoup de bruit en 1972 et qui lui aussi dit attention, danger, il faut arrêter la croissance. Alors, bon, c'est aussi d'ailleurs un premier organisme international qui est une ONG qui a été créée à l'initiative de l'UNESCO et qui continue à exister aujourd'hui et qui joue un rôle très important qui s'appelle l'Union internationale à l'époque de protection de la nature puis qui est devenue de conservation de la nature qui est une grosse organisation qui fait des études approfondies. Les prises de position, dans les premiers temps, les premiers écologistes étaient très malthusiens, étaient très intervenaient beaucoup sur la question du développement de la population, sur le fait qu'il fallait absolument la maîtriser, qu'on n'allait pas réussir à avoir les ressources nécessaires si on acceptait l'accroissement de la population mondiale. Et le fait qu'il soit sur ce type d'explication provoquait une cassure avec les pays du Sud, hein, qui, de ce point de vue-là, étaient encore avec des taux de fécondité extrêmement importants et qui n'adhéraient pas à ce type de notion. Mais les écologistes et les mouvements écologistes qui commencent à apparaître à la fin de cette période, en France, mai 68, d'une certaine manière, a été un moment de remise en cause des modes de consommation et autres, qui a été aussi un des éléments de naissance en France de ces préoccupations sur une base plus importante, hein, sortant des milieux de quelques penseurs scientifiques. C'est cette mise en cause que je signale pour la France, mais qui a eu lieu dans beaucoup d'autres pays, des modes de production et de consommation dans les pays développés du Nord, permet la convergence avec les mouvements de décolonisation. Et politiquement, c'est quelque chose il commence à y avoir des rencontres entre les deux, et ce n'est plus en opposition. Donc ça fait très peur aux gouvernants des pays du Nord, et commence à être rabâché le discours qu'on entend encore aujourd'hui, que développement et conservation des ressources, que développement économique et capacité à maintenir les équilibres écologiques ne sont pas contradictoires, qu'au contraire, le développement économique est une condition pour pouvoir réellement préserver la nature. Les gouvernants des pays du Sud rejoignent les gouvernants des pays du Nord de ce point de vue-là sur ce type d'affirmation parce qu'ils y trouvent bien entendu aussi un intérêt. Il y a des tentatives de développer des bourgeoisies nationales qui sont sur ce même type de projet politique. Le premier sommet de la Terre, le premier, hein, je vous ai dit, il y en a tous les 10 ans, donc les années en deux, 72, 82, 92, 2002, 2012, on y est. Le premier sommet de la Terre a lieu en 1972 à Stockholm. Alors vous voyez vraiment pratiquement à la fin de cette période-là. Et il est sur la base de ces compromis dont je parlais précédemment. Hein. C'est la volonté de mettre en place une politique mondiale de l'environnement qui dise oui, il faut le constater, il y a des limites à la planète et à son exploitation, il y a des limites aux ressources, etc. Mais il faut de la croissance économique. Ça ne la met pas en cause, au contraire, la croissance économique est nécessaire pour répondre à ces limites, pour être capable de les traiter, etc. Et puis la deuxième, le deuxième compromis, c'est la reconnaissance de l'émergence du tiers-monde, hein, de ces pays du Sud. Donc oui, vous avez le droit à l'indépendance, oui, vous avez le droit à développer des politiques nationales, mais attention, laissez-nous l'accès aux ressources minières, laissez-nous l'accès à l'ensemble de ce dont nous avons besoin. Laissez-nous aussi l'accès à la capacité de vendre nos productions, etc., et donc à maintenir l'échange inégal. C'est donc derrière ce premier, alors ce premier sommet de la Terre s'appelle le sommet de l'environnement humain. Alors ce premier sommet de la Terre aboutit à la création d'une institution qui s'appelle le Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui est une agence là liée à l'ONU, hein, donc liée aux Nations Unies, et qui a comme responsabilité celle d'étudier ces questions d'environnement, de faire des propositions, etc., mais qui n'a pas du tout des moyens juridiques, qui n'a pas beaucoup de moyens financiers, etc., mais bon, c'est une première création, et son siège est fixé au Kenya, à Nairobi. On arrive en 1973, et c'est ce tournant de la crise de 1973. Alors, crise un peu classique de surproduction, hein, ces crises sont des crises qui revenaient assez régulièrement, mais qui avaient été masquées pendant les Trente Glorieuses, hein, au travers d'une politique très keynésienne, très redistributive, permettant d'organiser une consommation de masse et offrant des débouchés aux industries. C'est en même temps, sans que ça soit forcément la cause, mais c'est dans le même temps, et ça renforce en tout cas, c'est la crise sur le prix du baril de pétrole, où les pays producteurs de pétrole s'organisent et imposent des prix. Mais quand on regarde bien, hein, les prix qu'ils imposent en 1973 par rapport aux prix du pétrole 20 ans auparavant, en valeur constante, hein, étaient les mêmes. C'est que dans les 20 années en question, les pays du Nord avaient imposé une baisse de fait de la valeur du baril de pétrole. Donc ce n'était qu'un rattrapage, hein, de ce point de vue-là. C'est aussi le chômage qui commence à devenir un phénomène de masse et à progresser. C'est aussi des politiques des pays décolonisés qui deviennent plus agressifs pour reprendre la main sur leurs ressources. Ces sociétés donc de développement pendant les Trente Glorieuses, basées sur, je disais, sur des politiques keynésiennes redistributives, sur des régulations publiques aussi, sur des politiques aussi de développement militaire dans le cadre de l'affrontement entre les deux blocs, de développement militaire qui aussi était de conquête de l'espace, hein, c'est l'époque où on va aller marcher sur la Lune. C'est aussi une époque où les ressources fossiles, les ressources minières étaient très bon marché, hein. Et bien grâce à l'échange inégal avec les pays décolonisés, toute cette construction-là entre en crise. Et le capitalisme, du coup, entre en mutation. C'est une bête qui a des capacités d'adaptation et de renouvellement extrêmement forte, hein, de ce point de vue. Et c'est donc les débuts de la financiarisation de l'économie, de la mondialisation et des politiques libérales, Thatcher, Reagan, dans les années qui suivent, de Je disais donc que déjà la hausse des taux d'intérêt avait commencé, mais là, ça, dans les années 73, pour ceux qui ont des cheveux un peu blancs ou moins de cheveux comme moi, vous vous rappellerez que c'est la hausse des taux d'intérêt, par exemple des prêts en France, de manière phénoménale, hein. On passe avec des taux d'inflation de l'ordre de 12-13%, des taux d'intérêt, par exemple sur l'immobilier, qui montent à 15-16%. Alors qu'auparavant, ils étaient à 3-4%. Hein. Bon, on est on est dans une période donc de déstabilisation et ça entraîne des politiques. Donc, j'avais parlé de l'accroissement de la dette des pays du Sud. Eh bien, derrière, on commence à imposer des politiques d'ajustement structurel, comme on les a si bien appelées à ces pays-là. C'est dans ces pays du Sud, du coup, la privatisation, la recherche de devises, mais je l'ai déjà dit, par l'agriculture exportatrice. Donc, dans les années qui suivent, on se rend compte des limites du modèle et les perdants, on commence à voir les perdants, hein, au Sud, les peuples. Spoliés de leurs ressources, dans une dépendance accrue aux pays du Nord. C'est l'histoire bien connue des poulets provenant des élevages intensifs de France qui sont vendus sur le marché de Dakar bien moins cher que le poulet qui vient du village voisin, enfin de 30 km de Dakar, et qui donc rendent. Enfin, mettre à bas toute l'agriculture de proximité, toute l'agriculture nourricière de ces pays-là et rendre dépendants des importations. C'est la même chose avec le riz, hein, par exemple, en Afrique. Bon, c'est au nord les dégâts sur les conditions de travail, sur la santé, sur le mode de vie et. Je parlais du chômage qui prend une progression très importante. Il faut se rappeler qu'en 1972, en France, il devait y avoir quelque chose comme 250 000 chômeurs. Et avec un chômage qui n'était pas de longue durée, hein, un chômage qui était de quelques mois. Ça correspondait en fait beaucoup plus à une certaine mobilité sur le marché du travail. Et on va avoir Mauroy qui dit jamais le seuil de 1 million de chômeurs sera dépassé. Puis après, quelques années plus tard, jamais le seuil de 2 millions de chômeurs sera dépassé. Et voilà, les progressions se font et le chômage s'installe de manière durable. En même temps, donc, progresse dans les années qui suivent, dans les 70, 80, 90. Progresse la prise de conscience que la planète est malade. L'idée du réchauffement climatique commence à percer et à être prise en compte. Les questions sur la biodiversité commencent aussi à dépasser les cercles d'initiés. L'épuisement des ressources, ça s'était déjà fait un peu avant, mais ça s'approfondit. Mais dans le même temps, l'offensive rationaliste, techno-scientifique, qui veut faire croire que avec le progrès scientifique, avec les découvertes, on va être capable de répondre à à toutes ces questions-là. C'est aussi dans ces années 80 que commence à apparaître de manière très forte aussi le concept de la société post-industrielle, qu'on va être capable de reconstruire l'économie et de retrouver le terrain de la croissance par le développement dans des secteurs non industriels de l'économie et de la croissance. Et puis c'est aussi la période là, j'ai cité Thatcher, Reagan, et puis après ils vont avoir beaucoup d'émules. Où on libéralise à tout crin et où le capitalisme s'installe dans de nouveaux secteurs, la santé, les services publics, l'éducation. Alors c'est dans ses concepts de la société post-industrielle, c'est la société de l'information. C'est aussi le génie, l'ingénierie génétique, où deux des domaines clés de ce point de vue en sont l'agriculture et la santé. Alors, ces évolutions-là nécessitent une politique très agressive en matière de propriété intellectuelle et de privatisation du vivant. Et on est donc aux négociations de 1986 de l'Uruguay Round, j'avais dit que je ne parlerais pas anglais, du cycle de l'Uruguay, qui aboutissent à la création de l'Organisation mondiale du commerce et de l'accord sur les droits de propriété industrielle les droits de propriété industrielle et commerciale, la PIC, si on prend l'anagramme, le 1er janvier 1995. L'Organisation mondiale du commerce, à la différence de l'UICN, de l'Union internationale de conservation de la nature, elle a des pouvoirs coercitifs. Un tribunal, alors même qu'elle ne dépend pas de l'ONU. C'est une différence qui montre où sont toujours les priorités. Hein. C'est aussi donc cette période-là, les années 80, fin des années 80, 90 et les années 90, où apparaît la notion de développement durable. La conscience des risques destructeurs dus aux activités humaines sur la nature progresse de manière importante. On a aussi, ce n'est pas qu'anecdotique, 1986, Tchernobyl, hein, qui montre aussi que les développements des techniques peuvent amener à des catastrophes extrêmement, extrêmement importantes. 1987, une nouvelle commission qui a été créée en 1983 par l'ONU, qui est la Commission mondiale pour l'environnement et le développement, donc là une commission de l'ONU. Hein. Donc 1987, un dénommé Brundtland remet un rapport qui s'appelle Notre futur commun. C'est une femme ?
Madame Brundtland.
Oui. Madame Brundtland remet donc un rapport qui s'appelle Notre futur commun. Ce rapport de Madame Brundtland met en avant trois axes. La nécessité d'une nouvelle croissance pour répondre aux besoins humains. La nécessité de prendre en compte le souci des générations futures. Et la nécessité de mettre en avant le respect des écosystèmes. Je reprends les trois axes parce que c'est quelque chose qu'on va retrouver jusqu'à aujourd'hui, toujours. C'est cette nécessité d'une nouvelle croissance et des choses tout à fait louables, le souci des générations futures et le respect des écosystèmes. Le rapport insiste aussi, ce qui est aussi positif, sur la nécessité de processus de coopération internationale, en mettant en avant qu'on est dans un monde solidaire et qu'un pays ne peut pas se considérer comme seul au monde. Et ces processus de coopération internationale devant se traduire par la mise en place de mécanismes de décision multilatéraux, décision multilatérale, des mécanismes multilatéraux de décision. le rapport aussi disait, donc c'est dans le même état d'esprit, il faut trouver des compromis entre préservation de l'environnement et développement économique. Trouver des compromis entre accès aux ressources et développement des pays du Sud. toujours donc cette idée qu'il faut préserver les intérêts des entreprises et des systèmes du Nord d'accéder donc aux ressources dans les pays du Sud, qu'il faut, mais qu'il faut en même temps quand même prendre en compte le fait que les pays du Sud ont droit à une certaine reconnaissance, en tout cas dans les textes. Parce qu'en fait, on verra ensuite les pratiques politiques réelles. C'est perçu par un candidat aux élections présidentielles américaines, qui s'appelle George Bush, comme une politique social-démocrate, un rapport à mettre à la poubelle immédiatement. Et il fait sa campagne électorale en 1988, donc juste pas très longtemps après. Hein. Le rapport était de Madame Woodland, c'était 1987, hein, donc l'année suivante, sur le fait qu'il faut... Il faut arrêter l'interventionnisme des États, qu'il faut soutenir les mécanismes de marché et qu'il ne faut surtout pas mettre des freins aux initiatives des entreprises, que ce n'est certainement pas la bonne solution. Malgré cela, donc, mais les États-Unis ne seront pas très actifs. Hein. On arrive au sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992. Qui est un premier sommet de cette importance-là, 40 000 personnes, 108 chefs d'État ou chefs de gouvernement, 172 pays représentés sur 179 qui étaient à l'époque présents à l'ONU, une conférence parallèle organisée par l'ONU pour la société civile, les entreprises, les ONG, les syndicats. Les entreprises y sont très présentes hein, dans cette conférence parallèle avec un organisme qu'ils ont créé qui s'appelle le Conseil des milieux d'affaires pour le développement durable. Et tiens donc. Et ce sommet de la Terre de Rio de Janeiro a comme base, en fait, le rapport de Madame Brundtland et donc basé sur cette notion de développement durable. Alors, ce sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992, qui a une importance grande, est marqué par la reconnaissance de l'ampleur de la crise écologique planétaire. Réchauffement climatique, sixième extinction de la biodiversité, épuisement des ressources minières et des énergies fossiles, épuisement des sols et désertification conséquente sur une partie très importante des sols de la planète, pollution et crise sanitaire. L'ensemble de ces points-là sont pointés comme des problèmes qui sont des problèmes cruciaux pour l'humanité. Là, toujours, dans ce sommet de la Terre, la poursuite de la croissance économique est toujours considérée comme la condition nécessaire au développement et à l'ensemble des problèmes, à l'épuisement des ressources qu'il faut chercher à compenser par des innovations technologiques, il y a aussi le lien qui est fait sur le fait que la pauvreté est... Combattre la pauvreté est une nécessité parce que la pauvreté est considérée comme étant un des facteurs de la mise en cause de l'environnement. Parce que les pauvres sont sales. Mais bon, je plaisante en disant ça, enfin à moitié. Mais il y a cette notion-là qui était également présente. Donc la croissance est nécessaire pour pallier à la pauvreté, pour la faire diminuer, voire pour l'éradiquer. On retrouve bien là, je vous disais, j'ai dit que Bush considérait que c'était une politique social-démocrate, ce rapport de Madame Brundtland. On le retrouve bien hein, dans la social-démocratie, cette idée que la croissance économique, c'est la condition du progrès, c'est la condition de la justice sociale, c'est la condition de l'éradication de la pauvreté, sans s'interroger sur la nature de cette croissance. Ça vous rappelle pas quelque chose du point de vue des débats récents ? Or, l'élément extrêmement important, c'est que ça se heurte, et c'est pour ça que c'est une illusion, à la réalité d'un système économique qui a besoin en permanence d'accumuler des capitaux, en permanence de se reproduire en suscitant des nouveaux besoins, en élargissant les champs de son intervention économique, avec tout ce que ça peut impliquer derrière, hein, en également en programmant l'obsolescence des produits, avec tout ce que ça provoque sur l'aspect déchets, sur l'aspect utilisation des ressources, des minéraux rares, etc., etc. La durabilité des sociétés, et là, c'est la première fois en fait que je prends une position hein, par rapport au problème que je pointais et aux évolutions du débat que je pointais, mais la durabilité des sociétés nécessite que la sphère économique soit gérée en harmonie avec les sphères sociales et écologiques. Le capitalisme, dans son mode de fonctionnement, ne souffre pas qu'on lui mette des limites. Et l'idéologie libérale qui s'est affirmée durant ces années exige la suppression des normes et des règlements qui encadrent l'économie. Et ça va à l'encontre des objectifs qui sont mis en avant en disant il y a besoin de développement économique pour pouvoir assurer les conversions écologiques nécessaires, pour pouvoir éradiquer la pauvreté. Oui, mais qu'est-ce que ces modes de développement économique induisent? Et ils induisent encore plus de problèmes qu'ils n'apportent de solutions. Alors, le bilan de ce sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992, il est marqué par ce caractère contradictoire. Un élément extrêmement positif, c'est la reconnaissance de la responsabilité historique des pays développés dans les crises écologiques, notamment dans le réchauffement climatique. L'acceptation et l'affirmation que nous vivons sur une seule planète et que donc nous sommes tous solidaires de ce point de vue de ces évolutions, que toutes les femmes, tous les hommes, mais toutes les espèces vivantes sont impliquées et que la conséquence donc de ce constat-là qui est fait à Rio de Janeiro, c'est que la responsabilité est partagée et que donc personne ne peut s'en abstraire, mais qu'elle est différenciée, qu'il y en a qui sont plus responsables que d'autres des problèmes actuels. Un deuxième élément positif également, c'est la reconnaissance de la souveraineté nationale sur les ressources naturelles. Et ça, pour les pays du Sud, c'est extrêmement important, à l'opposé de laisser la liberté de pillage. Et c'est même la reconnaissance que les peuples indigènes, donc en dehors même des États, ont droit à ont des droits sur leur milieu de vie traditionnel et qu'on doit les respecter ces droits. Tout ça, c'est les textes, hein. Mais ces affirmations-là sont des affirmations très clairement qui sortent très clairement dans les textes issus du sommet de Rio. Mais alors, par contre, le côté négatif du sommet de la Terre de Rio, c'est cette illusion que la croissance est la solution aux crises environnementales et que en développant la croissance sans interroger du tout cette notion de croissance, ce qu'elle implique, etc., on va trouver les solutions à tous les problèmes de l'humanité. Je vais y revenir parce que ça va avoir des conséquences, vous allez voir, tant sur la politique en termes de diversité biologique que sur la politique en termes climatiques. Au sommet de la Terre sont nées également trois conventions internationales. La Convention pour la diversité biologique, qui donc depuis a tenu 10 conférences de 1993 à 2010. La dernière a eu lieu au Japon, à Nagoya, en 2010. La Convention cadre sur le changement climatique, il y a eu 17 conférences, c'est les COP, COP 1, COP 2, COP 3. Le COP 15 était celui de Copenhague. 17 conférences des parties, comme on dit. Les parties, en fait, c'est l'ensemble des signataires de la Convention cadre sur le changement climatique. Toutes ces conventions ont été signées à peu près, sauf celle sur le changement climatique. Mais les deux autres ont été signées par 180 États, etc. Ce qui est important de voir, c'est que la Convention sur le changement climatique n'a pas été signée par les États-Unis. Et que M. Bush avait dit déjà, le mode de vie américain est non négociable. Alors que par habitant des États-Unis, les États-Unis à l'époque étaient le pays qui émettait le plus de gaz à effet de serre. Et était globalement en plus le pays qui émettait le plus de gaz à effet de serre. Et la troisième conférence cadre, c'est la convention, la troisième convention, c'est la convention sur la désertification. Alors la convention sur la diversité biologique se préoccupe de diversité biologique, comme son nom l'indique, celle sur le climat du climat, et celle sur la désertification se préoccupe des conséquences et de comment pallier aux conséquences, par exemple, du réchauffement climatique sur la progression sur la désertification. Comment prendre en compte aussi, l'ensemble des conséquences en termes d'agriculture, en termes de santé publique, ce qui se passe du point de vue de la diversité biologique et du changement climatique. La Convention de Rio aussi a été suivie par nombre de conférences internationales thématiques sur le droit des femmes, sur les villes, sur la santé, sur la cohésion sociale, etc. Ceci dit, si on se projette un tout petit peu plus loin, donc fin des années 90, on se rend compte en fait que toutes ces belles déclarations, tous ces engagements pris, etc., se traduisent par une baisse de l'aide publique au développement. Ce n'est pas une conséquence. Mais c'est ce qui se passe dans la réalité, c'est que la responsabilité première des pays du Nord qui avait été reconnue ne donne pas lieu à une inflexion des politiques et au contraire, dans la période, l'aide publique au développement diminue. Parce qu'on est dans des périodes de crise et que le plus simple pour les gouvernements du pays du Nord, c'est de sabrer dans l'aide publique au développement, comme ils vont sabrer dans le financement des associations ou dans des programmes sociaux, etc. Alors, il y a une tentative d'ailleurs à la fin des années 90. Parce que ce bilan est un bilan que tout le monde peut faire, qui ne peut pas être masqué. Il y a une tentative de relancer une impulsion au travers de la mise en place des objectifs du millénaire pour le développement, qui se traduisent par un sommet à New York en 2000, avec l'inscription de ces objectifs millénaires du développement comme projet phare à l'agenda des Nations Unies. Il y a 8 objectifs qui sont mis en avant. Réduire l'extrême pauvreté et la faim, le premier. Assurer une éducation primaire pour tous, le deuxième. Le troisième, promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Le quatrième, réduire la mortalité infantile. Le cinquième, améliorer la santé maternelle. Le sixième, combattre le sida, le paludisme et toutes les pandémies. Le septième, protéger l'environnement. Le huitième, mettre en place un partenariat mondial pour le développement. C'est beau, hein ? C'est des objectifs auxquels on ne peut qu'adhérer. Hein ? Ceci dit, ces objectifs, pareil, 2000. Quand il y a une conférence en 2013 qui va faire le bilan de l'avancement, parce qu'il y avait eu des objectifs détaillés par rapport à ces 8 OMD, on dit, objectif du millénaire pour le développement, ils avaient été chiffrés pour 2015, et bien on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas d'avancée, il y a même des reculs. Et donc, Il y a un sommet, mais un bilan qui sera fait en 2013 dessus. L'idéologie dominante suite à Rio, dans les années qui suivent Rio, l'idée que la gestion... c'est les époques du libéralisme, de cette idéologie libérale qui prend le dessus un peu partout, et qui impose l'idée que la gestion commune des biens communs est source de gaspillage et est une des raisons de leur surexploitation. Parce qu'en fait, quand on fait des programmes étatiques, eh ben on se fout à tous les coups à côté de la plaque. C'est des programmes... là, c'est ce que disent les libéraux, hein, c'est pas ce que je dis moi. Hein. Quand on donne la main aux États, eh bien, non, il y a beaucoup mieux à faire. Le mieux, c'est de leur attribuer un prix, de les privatiser, d'en faire des droits de propriété, de les mettre sur le marché, et la main invisible du marché. Et le marché, lui, va être le meilleur moyen d'atteindre un équilibre économique et donc écologique. Si y a une raréfaction d'une ressource, le prix de cette ressource va monter. Comme le prix de cette ressource va monter, eh bien, on va être beaucoup plus économe dans son utilisation. Et ça permettra aussi de faire des recherches pour trouver des substituts à cette ressource rare qui diminue. Voilà la logique. C'est cette logique qui est la logique libérale classique, de penser que le marché, de ce point de vue, est le meilleur régulateur, que toutes les régulations qui sont des régulations de type réglementaire, de type par les États ou par les collectivités, sont des réglementations qui sont source de gaspillage, source d'inefficacité. Alors, malgré le fait qu'on rentre dans ces politiques de libéralisation, ils sont bien obligés de prendre en compte le fait qu'il y a des déséquilibres écologiques, qu'on les voit progresser, c'est pas contestable. Eh bien, ils ne viennent pas de l'incapacité du marché à gérer la nature, mais ils viennent de l'imperfection des marchés. Pourquoi ? Parce qu'il y a des activités qui peuvent avoir des effets externes et que le prix des produits ne comptabilise pas ces effets. Donc faisons rentrer le prix. Alors ces effets externes ont un coût, c'est des externalités négatives. Donc ces externalités négatives ne sont pas prises en compte dans les informations qui, au travers du prix, sont données tant aux producteurs qu'aux acheteurs. Les prix ne reflètent pas le coût de ces externalités et donc leur coût pour la collectivité. Il faut donc internaliser dans les prix ces coûts de dégradation de l'environnement, d'émissions de gaz à effet de serre, de mise en cause de la biodiversité. Et si on arrive à les internaliser, eh bien après, les acteurs économiques et le marché vont jouer leur rôle de régulation. Donc, deux pistes pour faire ça, mettre des taxes ou privatiser, en faire des éléments avec des droits de propriété et qui sont mis sur le marché. Parce que cette idée qu'il peut y avoir dans le prix d'un produit qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ne sont pas pris en compte et que du coup, du point de vue de la collectivité, c'est pas raisonnable, c'est pas complètement idiot, hein, en soi. C'est pas complètement idiot. Mais les taxes, non, parce que les taxes, c'est l'État. Les taxes, c'est de nouveau la régulation, la réglementation, etc. Non, laissons le marché en fixer le prix au travers de droits de propriété, et ces droits de propriété ensuite varieront avec le prix du marché, et le marché trouvera le bon prix. C'est parce que l'équilibre se fera, parce que si le droit à polluer coûte plus cher que la mise en place d'une correction dans la production et donc dans l'émission de gaz à effet de serre dans l'usine, si ça coûte moins cher d'améliorer le processus de fonctionnement, eh bien, on n'achètera pas de droits à polluer, mais on viendra mettre en place la régulation correspondante. Et donc, on va avoir le coût des droits, le coût de ces prix d'externalité externe qu'on a privatisé, qu'on a mis sur le marché, qui vont se retrouver au bon niveau, au même niveau que le coût de prendre en compte à l'intérieur la correction des processus de production. Le libéralisme, donc, préfère cette mise en place et cette instauration des droits de priorité. Et bien là, vous avez, et on débouche sur le protocole de Kyoto, qui est en 1997, et protocole de Kyoto qui met en place les permis d'émission de gaz à effet de serre. Et on débouche également, alors ça c'est pas le protocole de Kyoto, mais c'est sur, dans ces années-là, on commence à organiser le marché de la biodiversité. On commence à mettre des brevets sur le droit du vivant, etc. etc. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps je parle, je ne sais pas du tout regarder. Comment ? J'avais que 45 minutes. Bon. Je m'étends beaucoup. Hein. Un détour, la biodiversité en danger. Alors, des constats. Hein. Alors, toujours cette ONG-là, l'Union internationale de conservation de la nature, elle dresse une liste rouge des espèces menacées en 2008. Elle dit qu'il y a 17 000 espèces animales qui sont menacées sur 45 000 espèces animales recensées. Au niveau mondial, 15 millions d'hectares de forêts anciennes disparaissent chaque année. Alors les forêts anciennes, comme les zones humides, c'est les endroits où la biodiversité se renouvelle le plus. En France, perte de 50% des zones humides en 30 ans. Monsieur Jean-Marc Ayrault souhaite poursuivre cette politique-là en construisant l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes qui est en plein sur des zones humides, sur un réservoir de zones humides. Hein. Ça fera encore quelques hectares de plus. Comment ? Non, parce que justement, on bétonne. Donc, pas besoin d'hydravion. Ça serait peut-être une solution. Hein. Faudrait peut-être lui conseiller. Ouais. Pour les végétaux sont moins bien répertoriés, hein, le nombre d'espèces végétales, mais on estime à 10% en France, dans la même période de 30 ans, la disparition d'espèces qui sont des espèces qu'on appelle indigènes, c'est-à-dire des espèces qui sont des espèces existant en France, quoi, hein, et existant peu dans d'autres pays. 10%, c'est important, hein, aussi. Le rythme d'extinction des espèces animales et végétales est considéré comme étant 1000 fois plus rapide actuellement, hein, dans nos années actuelles qu'il l'était quand l'intervention humaine et le développement du 19e et 20e siècle n'avaient pas eu lieu. 1000 fois plus rapide. C'est pour ça qu'on parle de la sixième grande extinction des espèces. La Convention sur la biodiversité qui a été signée en 1992, hein, à Rio, fixait comme objectif la conservation de la diversité, je cite, hein, la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ces éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques. Le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques. Au niveau des termes, il y a quelque chose, une première similitudes à se mettre à prendre en compte. Hein. On exploite des ressources biologiques, des ressources génétiques. Mais des ressources génétiques, qu'est-ce que c'est des ressources génétiques? On rentre à ce moment-là dans cette nécessité donc de prendre le vivant et de le découper en morceaux qu'on peut isoler, qu'on peut privatiser et pour lequel on peut organiser un marché. Ça ne vous rappelle rien du point de vue... du point de vue de la question de Monsanto et des semences et de cette appropriation du vivant. Alors, il y a un côté qui est complètement... bon, j'y reviendrai un tout petit peu après. Alors, cette marchandisation, donc là, qui est mise en avant par... ces questions sur la biodiversité, il y a deux concessions qui sont faites toujours. C'est reconnaissance de la souveraineté nationale sur les ressources biologiques et partage avec les communautés locales, c'est dit comme ça, des fruits des innovations. Hein, donc les peuples indigènes, on va aller leur piquer, notamment pour créer des médicaments qu'on va... alors que c'est des substances, des plantes qu'ils utilisaient de très longue date. On va leur piquer ça, on va le privatiser, organiser des marchés autour. Et ils auront droit, comment ? À un retour de ce point de vue, un partage équitable avec les communautés locales. On est 20 ans après... 1992, hein, on n'a pas avancé d'un pouce tant dans la définition de ce que pourraient être ces règles de partage et encore moins dans leur mise en pratique. Hein. Rien n'a été fait de ce point. Alors par contre, le brevetage du vivant, lui, il a avancé. Hein. Je vous cite donc en 1994 et avec l'ATPIC, hein, c'est l'accord qui a été fait en même temps que l'OMC qui est entré en vigueur le 1er janvier 1995. Hein. Donc l'ATPIC, je vous avais dit, l'accord sur les droits de propriété industrielle et commerciale. Intellectuel. Comment ? Intellectuel. Intellectuel et commercial, pardon. je vous cite. C'est l'article 27.1. Un brevet pourra être obtenu pour toute invention de produit ou de procédé dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, l'invention, ou qu'elle implique une activité inventive. Ça déjà, c'est plus dur à évaluer. Et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. Donc ça va concerner les plantes, les animaux, au travers des... manipulation génétique, on va créer et avoir un droit de propriété sur des races d'animaux, les gènes, les micro-organismes, les molécules, les médicaments. Voilà cette appropriation-là qui se fait. C'est transposé par une directive... Enfin, il y a une directive européenne qui applique cette APIC qui a lieu en 98, je crois. Le Parlement européen a résisté un temps, mais finalement, la Commission européenne a fait passer au Parlement européen et la transposition en droit français a eu lieu en 2004. Et là, on peut demander au gouvernement actuel, enfin celui qui sera en place là après ce deuxième tour, qu'est-ce qu'il compte faire sur cette question-là. Ça m'apparaît être une question d'importance. Alors, en plus, d'un point de vue de conception philosophique, de conception aussi des rapports entre les sociétés humaines et la nature, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, hein? Vandana Shiva a écrit « Réduire un tout organique à des parties fragmentées a été la méthode réductionniste pour aller au-delà des limites de la nature ». On reconnaît bien là, dans ce coup de prendre des petits bouts, hein, un gène, une molécule, etc., c'est d'abord une politique d'apprenti sorcier, hein, parce que sur la question des manipulations génétiques sur les plantes, hein, que j'ai regardé de près, on sait qu'on ne connaît pas le rôle de l'ADN, le rôle de l'ARN, les interactions qu'il peut y avoir entre elles, et quand on agit par transgénèse, en introduisant un gène dans une plante pour la rendre insecticide ou pour la rendre résistante aux herbicides, on sait qu'on fait ça, mais on ne sait pas du tout quelles sont les conséquences et les interactions qu'il peut y avoir avec le reste de la cellule. On est dans des décryptages du génome qui commencent à avancer, mais dans les interactions entre ADN et ARN, ou dans ce qu'on appelle l'ADN mort, c'est-à-dire des tas de séquences génétiques où on ne sait pas à quoi elles servent, on n'a pas repéré à quoi elles pouvaient servir, on est encore au balbutiement. Et il y a eu déjà des tas de cas de semences qui ont été mises sur le marché et qui ont été retirées très rapidement parce qu'on s'est rendu compte qu'elles avaient des conséquences en termes de provoquer des allergies, de provoquer des crises sanitaires importantes. Et on les a retirées. Bon. Après, l'efficacité économique, c'est un autre sujet sur lequel on pourrait aussi s'appesantir de manière importante. Mais on est vraiment dans des politiques d'apprenti sorcier. Et on est bien là sur le cartésianisme qui s'oppose à des conceptions un peu systémiques, à des prises en compte de l'ensemble des systèmes et non pas de décortiquer, d'avoir une volonté de maîtrise qui est très illusoire. Alors, le bilan qu'on peut tirer sur le marché de la biodiversité, c'est qu'en fait, ça a été jusqu'à présent plutôt pas une grande réussite. Hein. Dans beaucoup de domaines, ça a été un échec parce que les grandes firmes ont peu investi, parce que des fois, une multitude de brevets, c'est la conséquence de cette volonté de parcelliser les choses. Il y a un exemple qui est un exemple assez célèbre, c'est l'exemple du riz doré. Sur le riz doré, il y a 12 titulaires de brevets et il y a 70 brevets. Et donc, quand on veut faire une utilisation du riz doré, eh bien, il faut passer un accord avec les 12 titulaires des 70 brevets. Donc, cette situation-là, qui est un peu caractéristique sur le riz doré, mais se retrouve sur beaucoup de domaines. Hein. Alors ça, c'est un échec économique, hein, de développement de ce marché de la biodiversité, mais c'est aussi un échec écologique. Hein, parce que les véritables causes de disparition de la biodiversité, eh bien, c'est Jean-Marc Ayrault avec l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire c'est la disparition et la destruction des habitats naturels, et c'est aussi cet abandon de connaissances qui sont des connaissances très intuitives, de savoir populaire, au profit, entre guillemets, mais pour les remplacer par l'illusion d'être capable de tout maîtriser, quoi. Et donc, en fait, on se rend compte que ces causes systémiques continue à créer et à entretenir la destruction de la biodiversité et la sixième destruction dont je vous parlais tout à l'heure. Alors bon, sur le climat, je ne vais pas trop m'appesantir parce que c'est des choses connues, mais quand même, le protocole de Kyoto donc, qui donnait des éléments positifs et des éléments négatifs. Les éléments positifs, c'était de mettre en place des objectifs contraignants sur les pays développés, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les États-Unis ne l'ont pas signé, mais sans mettre en place, c'était des objectifs juridiquement contraignants, hein, avec le fait qu'était évoquée la possibilité de sanctions s'il y avait non-respect de ces objectifs contraignants d'émissions de gaz à effet de serre, mais pas de mise en place des procédures, des institutions permettant de mettre en œuvre ces sanctions si non-respect. Or, le non-respect, il a été pratiquement général, sauf en Europe, et parce que l'Europe a bénéficié de la crise économique. Donc, dans les années 2008-2009, il y a eu diminution importante de l'émission de gaz à effet de serre en Europe. Par contre, 2010, ça remonte. 3,5% d'émissions de gaz en plus. Donc, ce n'est pas tant une action réellement importante et concertée qui a joué. Donc, l'aspect positif, donc, c'est ces objectifs contraignants. L'aspect négatif, c'est la mise en place, la marchandisation, la mise en place des mécanismes de développement propre du marché des droits d'émission. Alors, bon, je suppose que enfin, vous avez peut-être suivi des conférences là-dessus. Si vous voulez revoir, il y avait un livre d'attaque, mais qui ne doit plus être disponible, sur la question qui avait été écrite au moment de Copenhague. Mais il y a un 4 pages qui résume un peu et qui est disponible sur le site d'attaque sur ces questions-là, qui explique bien comment fonctionnent les droits d'émission, les permis d'émission de gaz à effet de serre, les mécanismes d'échange, le marché mis en place. Normalement, en 2013, les transports aériens doivent rentrer dans ce mécanisme, doivent donc se voir attribuer des droits d'émission et puis ensuite être surveillés sur le respect de ces émissions. Le marché qui a été mis en place donc, de ces droits d'émission, puisque là, c'est aussi l'idée que le marché allait réguler beaucoup mieux que des réglementations et des taxes. Le marché qui a été mis en place a vu les prix s'écrouler. Les prix, j'avais un chiffre, donc on est aujourd'hui à, alors que je crois que ça a été introduit à 30 euros en 2005, la tonne d'équivalent carbone, hein, puisque c'est l'unité de mesure, elle était à 30 euros. Aujourd'hui, on est aux alentours de 3-4 euros le prix de la tonne. Donc ça s'est complètement écroulé, ce marché n'a pas fonctionné. Et donc, alors pourquoi? Parce qu'il y a eu une distribution gratuite de beaucoup de droits d'émission, puisque c'est, dans les premières années c'était gratuit. Il y en a eu plus que nécessaire. En plus, bon, le ralentissement économique dû à la crise a fait qu'il y avait beaucoup plus de permis de droits à émettre que d'émissions réelles. Donc du coup, il n'y avait plus personne pour acheter des permis d'émission. Et donc en fait, ça a complètement... Donc ça, en plus, bon, il y avait un mécanisme complètement pervers dans le mécanisme de développement propre qui permettait de faire des projets au sud pour gagner le droit de continuer à émettre au nord. Donc tout ça, je vous renvoie à la documentation attaque. Mais tout ça fait que ça n'a pas été dissuasif de manière réelle sur des politiques de maîtrise de l'émission des gaz à effet de serre. En plus, un point à signaler, qui est peu signalé, mais qui est important, qui était peu signalé, je crois qu'on ne l'avait pas mis dans le 4 pages, par exemple, mais il y a 40%, 40, si on prend le total des émissions dans les pays d'Europe, eh bien, il faudrait rajouter 40% dans la responsabilité sur l'émission de gaz à effet de serre au travers de l'importation de produits venant des pays du Sud. Parce que quand on importe des produits venant des pays du Sud, dans les pays du Sud, pour fabriquer ces produits, ils ont émis des gaz à effet de serre. Et si on prend le total des émissions dues à ces produits importés, à la balance d'ailleurs, produits importés, produits exportés, si on les rajoutait, ça serait 40% supplémentaire par rapport à la réalité de à ce qui est affiché comme étant notre bilan d'émissions des gaz à effet de serre en Europe. Alors, où en sont les négociations climatiques? Parce que, bon, les négociations climatiques, les négociations sur la biodiversité sont des éléments centraux de... Je ne suis pas loin, hein, au travers de tout ce que je vous dis, de Rio plus 20, hein, du sommet de la Terre qui va avoir lieu là, donc du 20 au 22 juin. Le suivant, non, il sera en 22, il y en a tous les 10 ans. Mais il ne sera pas forcément à Rio. Donc peut-être que dans 20 ans, il sera à Rio, ça je ne sais pas.
On sera tous morts.
Ouais. S'il a lieu. S'il a lieu. Donc, où en sont les négociations climatiques? Bon, ben, le COP15 a été un élément crucial, parce que le protocole de Kyoto, qui avait des éléments positifs, des objectifs contraignants, etc., avait dit, pas forcément à Copenhague, mais avait dit au moment de Copenhague, cette année-là, il faudra fixer les objectifs de la période 2012-2020. Et des objectifs contraignants à la fois pour les pays développés qui étaient déjà dans la période 1990-2012, mais aussi pour de nouveaux pays qui entraient dans cette obligation. Là, il y a eu une opposition frontale des États-Unis, frontale, et derrière, il n'y a rien eu. On est sorti avec un texte de déclaration générale, sans aucun engagement contraignant. Ensuite, le COP 16 qui avait lieu au Mexique, à Cancun, il n'a pas avancé de plus sur cette question, produit un texte aussi général disant que chaque État déterminerait ses objectifs et les rendrait publics. Les objectifs ne sont toujours, pour beaucoup, ne sont pas rendus publics et bon, il se passe rien. Et donc là, il y a eu un COP 17 qui a eu lieu en Afrique du Sud, à Durban, en décembre 2011. Le prochain COP, c'est le COP 18, il va avoir lieu où? Il va avoir lieu au Qatar. Et le Qatar est le pays qui, par habitant, produit le plus de gaz à, émet le plus de gaz à effet de serre. C'est symboliquement assez remarquable. Bon, on est aujourd'hui, là c'est moins drôle, on est aujourd'hui dans une accélération de l'émission des gaz à effet de serre au niveau mondial. Et on est aujourd'hui, le GIEC, donc le groupement des experts scientifiques, avait dit il ne faut pas dépasser une augmentation de 2 degrés parce qu'une augmentation supérieure à 2 degrés peut entraîner des phénomènes en boucle qui deviennent non maîtrisables. Et déjà à 2 degrés, on sait que c'est une élévation du niveau des mers, c'est des conséquences sur les populations côtières, enfin, mais sur des dizaines, voire des centaines de millions de personnes, c'est des conséquences sur la désertification, c'est des conséquences sur les maladies endémiques, c'est des conséquences sur l'accès à l'eau, donc c'est beaucoup, beaucoup de conséquences, c'est des conséquences aussi en termes de dérèglement climatique. Eh bien, on est aujourd'hui sur des prévisions qui tournent autour de 3,5 degrés sur le 21e siècle, au lieu de 2 degrés. Et bon, ça ne. Aujourd'hui, les choses ne s'arrangent pas, quoi, hein. Et donc là, il y avait à Berlin, là, tout récemment, en mai, une rencontre préparatoire au COP 18 du Qatar. Il n'en est rien sorti. Mais rien sorti. Les négociations sont au point mort. Donc, la conclusion qu'on peut tirer aujourd'hui, mais malheureusement qui risque fort d'être la conclusion qu'on pourra tirer après le sommet de la Terre, donc fin juin, c'est que l'ONU et les agences et les conventions, les agences de l'ONU n'ont pas vu leur capacité d'action augmenter, que par contre, les firmes transnationales s'organisent de mieux en mieux, privatisent de mieux en mieux et que leur pouvoir et leur capacité d'intervention s'accroît, et que avec et en interaction avec le FMI et la Banque mondiale. Un exemple tout récent encore. Il y a eu un Conseil mondial de l'eau qui a été mis en place. Eh bien, ce Conseil mondial de l'eau, il est conduit par les multinationales de l'eau, et notamment les deux grands fleurons de l'industrie française que sont Veolia et Suez. Il y a eu tout récemment une réunion internationale à Marseille à ce sujet. Alors, bon, donc les sommets de la Terre, je vous disais, ont lieu tous les 10 ans. Stockholm 72, Nairobi 82, Rio de Janeiro 92, Johannesburg 2002, et donc de nouveau Rio de Janeiro 2012. On attend 50 000 participants au sommet officiel, hein. 116 chefs d'État et de gouvernement sont attendus. Et d'autre part, il y a des dirigeants d'entreprises et des représentants d'ONG qui sont aussi accrédités. Attac a été invité par le président de la République à participer à la délégation officielle française. Donc, Geneviève Azan, alors je ne sais pas où c'en est d'ailleurs, parce qu'il y a eu un petit débat sur les listes, mais je ne sais pas la conclusion de ce débat. Mais cette Geneviève Azan était dans le cadre de cette délégation pressentie. Le sommet de la Terre de Rio, et ça c'est les deux notions que vous avez entendues, c'est l'économie verte et c'est la gouvernance mondiale. Ces deux éléments-là sont mis en tête de pont. Alors par rapport à tout ce que je vous ai dit précédemment, vous voyez ce que c'est l'économie verte. Je n'ai pas besoin de beaucoup m'apesantir dessus. Hein. C'est cette idée que c'est le développement économique, que c'est la privatisation, la mise en place de la privatisation du vivant, du marché des droits pollués, que c'est l'intrusion du marché dans l'univers, de la diversité biologique, dans l'ensemble de secteurs des biens communs qui n'étaient pas encore mis sous la coupe du capitalisme, que c'est cette gestion tout à fait rationnelle que provoquent les mécanismes de marché qui va être la solution. Voilà, c'est ça le projet tel qu'il est défini, alors avec des très belles phrases. Hein. L'économie verte est une économie qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l'équité sociale, tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie de ressources. Je cite un rapport du programme des Nations Unies pour l'environnement, hein, qui est le texte de préparation du sommet de la Terre. L'économie verte reconnaît la valeur du capital naturel et l'intérêt d'y investir. Voilà, c'est ce que, à Attac, nous appelons la financiarisation de la nature. Alors, autant en 92, je vous ai dit qu'il y avait cette idée de l'économie, mais en même temps de l'exigence d'équité sociale et en même temps du respect de l'environnement. Aujourd'hui, les textes du PNU, du PNUE, hein, du programme national, du programme des Nations Unies pour l'environnement. Donc, c'est un texte qui a été publié en 2011, hein, qui est préparatoire au sommet de la Terre de Rio, ne parle plus que des exigences de développement de l'économie verte. Il ne parle plus des exigences sociales et écologiques. Alors, c'est peut-être de leur part de la modestie, parce que précédemment, quand ils en parlaient, ils ne le mettaient pas en œuvre. Eh bien, autant ne plus en parler du tout. Ouais, bon.
La gouvernance mondiale.
Alors, sur la gouvernance mondiale, eh bien, écoutez, alors là, je vais être un petit peu plus sec, parce qu'en fait, il y a peu de choses qui sont avancées de ce point de vue. C'est fixé comme une nécessité, mais en termes de quelles peuvent être les procédures mises en œuvre. Alors, on parle. Certains, la France par exemple, de l'Union européenne, demandent une organisation mondiale de l'environnement, équivalente un peu à l'Organisation mondiale du commerce, mais rattachée à l'ONU, ce qui serait quand même une différence déjà assez fondamentale. Si c'est une organisation mondiale de l'environnement ayant les mêmes types de rapports de puissance politique que l'OMC, c'est-à-dire un tribunal qui puisse juger des litiges, des procédures qui soient des procédures qui puissent être contraignantes et hautes, pourquoi pas? Mais ça, aujourd'hui, c'est refusé par les pays émergents, les BRIC, c'est refusé par les États-Unis, c'est refusé par la Russie. Enfin, la Russie est dans les BRIC. Mais c'est refusé par les États-Unis également. Donc, ça a très, très peu de chances d'être mis en place. Alors, c'est pour ça qu'en parallèle, et un peu comme les contre-sommets, Il y a un sommet des peuples. Donc le sommet de la Terre aura lieu du 20 au 22 juin, hein, exactement, sur 3 jours. Donc il y a un sommet des peuples pour la justice sociale et écologique. Son titre, c'est « Sommet des peuples pour la justice sociale et écologique contre la marchandisation de la vie et pour la défense des biens communs », qui aura lieu donc aussi à Rio de Janeiro, et qui est, on attend des millions de personnes, hein. On n'est pas là sur les, combien j'ai dit, 40 000, 50 000, c'est 50 000 cette fois-ci qu'ils attendent. On est sur des chiffres beaucoup plus importants. On verra combien il y aura de personnes, hein. À Belém, au FSM de Belém, il y avait énormément de monde, je ne sais plus combien, mais c'était 300 000, oui, quelque chose, enfin c'était déjà extrêmement important. Donc là, c'est un élément important. Donc vous aurez compris que ce que nous réclamons, et ce que nous réclamons avec l'ensemble de ces partenaires, hein, et notamment là, les pays du Sud sont très fortement représentés dans les organisateurs de ce sommet des peuples, ben, ce que nous réclamons, c'est l'adieu à la croissance. Donc l'adieu à la croissance, c'est que le système n'est pas seulement un système qui est injuste, mais c'est, et il y a aujourd'hui des données tout à fait sérieuses, examinables, qui pourraient être contestées, mais qui ne peuvent pas l'être parce qu'elles ne sont, sont vraiment pas contestables, qui montrent qu'il est impossible de généraliser les modes de vie et de production des pays du Nord à l'ensemble de la planète, parce que les ressources en minéraux, les ressources en énergie ne sont pas là et ne permettent pas de le faire. Il y a aujourd'hui des mouvements sociaux dans les pays du Sud qui portent cette critique, et c'est un élément qui est un élément essentiel, parce que c'est de cette capacité des peuples d'Amérique du Sud, mais j'espère demain des peuples africains, des peuples d'Asie, de porter ces préoccupations-là et comme première victime, hein, de ce système qui est développé au niveau international, qui pourra créer un mouvement de résistance importante. Le capitalisme a créé un imaginaire où tout peut être marchandisé, où que ce soit l'eau, la terre, la biodiversité, mais aussi d'autres notions, la justice, les droits des peuples, la vie, tout ça peut devenir et être mis sur le marché, peut devenir des marchandises. Il y a d'autres civilisations qui portent d'autres points de vue. Alors il y a des contestations dans les pays du Nord là-dessus, mais il y a aussi des civilisations qui portent d'autres points de vue de ce point de vue-là. Et le sommet des peuples qui a eu lieu à Cochabamba en avril 2010 a mis en avant cette notion de la terre-mère, le respect des droits qui ne soient pas que des droits liés aux conceptions occidentales. Il y a des très beaux textes, hein, mais je n'ai plus le temps là de vous les lire. Tout ça, vous pouvez, donc je vais conclure là maintenant pour qu'on ait quand même un peu le temps de débattre. Mais tout ça, je me suis appuyé beaucoup sur ce livre d'attaque qui vient juste de paraître, hein, « La nature n'a pas de prix », que vous trouverez d'ailleurs sur la table là-bas, qui est sorti il y a maintenant quelques semaines, un mois je crois, donc qui reprend l'ensemble de ces analyses-là, hein, de manière beaucoup plus détaillée que j'ai pu le faire. Vous avez également donc le 4 pages... qui était sorti dans Ligne d'Attaque et qui est aussi disponible, je crois, sur la table là-bas. Et puis, sur le site d'Attaque, vous avez des références à pas mal de textes de ce point de vue. Voilà.